Bonjour, France Inter vous emmène à l'intérieur de Notre-Dame de Paris, 3 mois après l'incendie qui a ravagé la cathédrale millénaire. Dans la nef à ciel ouvert, des robots s'activent sur les gravats. Le risque d'effondrement n'est pas encore écarté, mais pour le ministre Franck Riester, l'ambition est toujours de restaurer l'édifice d'ici 2024, vous l'entendrez. Le gouvernement s'affiche au travail comme d'habitude, ou presque, ambiance sans doute lourde au Conseil des ministres, où Elisabeth Borne doit s'emparer des dossiers de l'écologie en plus des transports, après la démission de François de Rugy. La France ne cédera pas sur la taxation des géants du numérique. Le ministre Bruno Le Maire a peaufiné son argumentaire avant de rencontrer son homologue américain au G7 Finance. La colère à Villeneuve-de-la-Raault dans les Pyrénées-Orientales. Le feu de forêt de lundi a été provoqué par des étudiants qui brûlaient leurs cahiers.
C'est incompréhensible que de nos jours, avec les informations qui sont faites, comment on peut avoir des gestes aussi dangereux.
Dans ce journal aussi, le témoignage poignant des Tunisiens et des vacanciers à Zarzis. Sur les plages, habituel paradis des touristes, ils assistent impuissants à l'arrivée de cadavres de migrants naufragés en Méditerranée. Faut-il avoir peur du CETA, le traité de libre-échange avec le Canada? Les députés votent aujourd'hui. Le retour du Roi Lion et le Tour de France qui repart en direction de Toulouse. La météo, Sébastien Léas.
Oui, après-midi ensoleillé pour tout le monde ou presque. Le soleil est quand même un peu atténué par de voiles nuageux, notamment sur le nord-ouest et sur les régions de la Méditerranée. Mais sur les Pyrénées, des averses orageuses sont attendues cet après-midi et les températures sont bien estivales. 25 à 35 degrés en général et 20 à 25 degrés sur le littoral de la Manche.
On vous retrouve pour un point complet dans une vingtaine de minutes.
France Inter.
Le parvis de Notre-Dame est toujours fermé aux Parisiens et aux touristes qui l'admirent de loin, mais pour la première fois depuis le terrible incendie du 15 avril qui a détruit sa charpente et sa flèche, France Inter a pu entrer dans la cathédrale, enfin en l'occurrence vous, Simon Cardona, bonjour.
Bonjour Sarah, bonjour à tous.
Vous avez accompagné ce matin le ministre de la Culture, Franck Riester, venu faire un point sur les travaux. Alors dites-nous, dans quel état est Notre-Dame ?
Alors ce qui frappe quand on rentre à l'intérieur, c'est cette impression que l'incendie a eu lieu il y a quelques jours seulement, avec ces gravats répartis en petits tas sur le sol de la nef. Quand on lève les yeux, encore aujourd'hui, on aperçoit le ciel à travers les voûtes béantes et des filets qui protègent d'éventuelles chutes de gravats. Et ces gravats sur le sol, justement, c'est un petit robot qui les ramasse. Philippe Villeneuve, l'architecte en chef de Notre-Dame.
Vous allez le voir, en fait, il est là pour aller récupérer les gravats qui sont au milieu. Ils vont ensuite aller de l'autre côté où les attendent des archéologues, des chercheurs qui vont ensuite récupérer, trier, et ensuite répartir ces éléments-là en stockage à l'extérieur. Là, ça ne peut être que des robots, puisque c'est dangereux, on risque d'avoir des chutes de pierres encore des voûtes, parce que la voûte n'est toujours pas sécurisée.
Et cette phase de sécurisation va durer encore quelques mois.
Et oui, le chantier n'en est qu'à ses débuts.
Oui, on n'a même pas commencé les premiers soins. Impossible donc d'évaluer le coût ni la durée totale des travaux. 5 ans avait promis le chef de l'État, et pas besoin, visiblement, de le rappeler au ministre de la Culture, Franck Riester.
Ne revenez pas sur cette question des 5 ans. Vous voyez bien que ce n'est pas du tout la question aujourd'hui. La question, c'est la sécurisation de Notre-Dame de Paris, ensuite sa restauration. Le temps qu'il faut sera pris. On a une ambition, c'est 5 ans. Ça permet de mobiliser toutes les équipes. Mais la sécurité des hommes, la qualité de la restauration, c'est ça qui compte.
Et cette restauration commencera vraiment après l'évaluation de toutes les voûtes, c'est-à-dire pas avant la fin de l'année.
Merci Simon Cardona. Le projet de loi pour la restauration de Notre-Dame a été, lui, définitivement adopté hier au Parlement. Mercredi, c'est Conseil des ministres. Le gouvernement s'affiche au travail, presque comme d'habitude, autour de la table à l'Élysée. Elisabeth Borne, jusqu'à hier ministre des Transports, récupère les dossiers de François de Rugy après sa démission sur surprise. Emmanuel Macron a donc choisi une ministre opérationnelle tout de suite. Peu avant minuit sur Twitter, Elisabeth Borne s'est dit déterminée à poursuivre ce combat essentiel qu'est la transition écologique et solidaire. Bonjour Karine Bécard.
Bonjour.
Vous êtes à l'Élysée. Pas de vacances donc pour l'écologie, devenu un sujet trop important. Et le gouvernement essaye de faire oublier son mauvais feuilleton de cet été.
Oui, c'est exactement cela. Ne pas laisser de vide, enjamber très vite cette interminable semaine de révélations qui t'a donné l'impression de se précipiter un peu pour oublier, vous avez raison, et puis surtout pour ne pas revivre le psychodrame du départ de Nicolas Hulot et la recherche d'un successeur qui avait pris plus de 10 jours. Donc cette fois, l'écologie est présentée, est affichée comme une absolue priorité. Elle est la clé de voûte de l'acte 2 du quinquennat d'Emmanuel Macron qui a choisi pour l'incarner, pour la porter, une femme. solide, technique, qui connaît déjà le fonctionnement du gouvernement, qui connaît aussi tous les grands dossiers et tous les partenaires avec lesquels elle va devoir travailler. Donc ce choix, ce n'est pas de la com de la part de l'exécutif, mais ce n'est pas de la politique non plus. D'ailleurs, Elisabeth Borne n'est pas, comme ses prédécesseurs à ce poste-là, une ministre d'État. Elle n'a pas en réalité une personnalité suffisamment charismatique. Elle n'est pas non plus la chef d'un parti politique. Elle est une parfaite technicienne. Et celui qui, de toute façon, fera avancer l'écologie au rythme qu'il veut, c'est bien sûr et uniquement le président Macron.
Merci Karine Bécard avec les moyens techniques de Fabien Gosset. Direction maintenant le ministère de la Transition écologique où la passation de pouvoir est prévue à 13h30. Exit François de Rugy, place à Elisabeth Borne, polytechnicienne, 58 ans. Une carrière dominée par le service public, plusieurs cabinets ministériels socialistes et les transports, ancienne cadre dirigeante de la SNCF qu'elle a réformée en arrivant au gouvernement Macron. Ancienne présidente de la RATP, les transports parisiens, est passée par le groupe Eiffage, les autoroutes. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
Vous êtes au ministère de la Transition écologique. Alors les transports et l'écologie ensemble, c'est logique peut-être, mais aussi conflictuel. Les routiers parlent de blocage pour la rentrée contre la hausse des taxes. D'où cette question, Sandy, cette spécialiste des transports, a-t-elle fait sa transition écologique ?
Écoutez, Elisabeth Borne n'arrive pas en terre inconnue. Son ministère dépendait déjà de François de Rugy. Elle a également été directrice de cabinet de Ségolène Royal en 2014. Cette polytechnicienne est d'ailleurs en train de boucler la grande loi sur les mobilités destinée justement à verdir nos déplacements. Parmi les objectifs, la fin des voitures thermiques qui roulent au carburant fossile en 2040, sujet sensible, on l'a vu, avec la crise des gilets jaunes. Reconnue comme une grosse travailleuse, Elisabeth Borne peine à convaincre les associations de défense de l'environnement pour qui elle incarne la politique des petits pas du gouvernement. Elle était justement attendue sur un dossier polémique aujourd'hui à Perpignan pour évoquer le sort du train qui transporte les fruits et légumes entre Perpignan et le marché de Rungis en région parisienne. Les militants y voient un symbole des contradictions du gouvernement en matière écologique. D'un côté, on dit moins de camions de marchandises sur les routes et en même temps, une ligne de fret ferroviaire beaucoup moins polluante est menacée de fermeture.
Merci Sandy Dauphin avec Yves Lehors à la technique. Le bilan écologique d'Elisabeth Borne au transport, c'est ce qui inquiète aussi le député européen écologiste Yannick Jadot.
Est-ce que Madame Borne, ministre de l'écologie, sera celle des transports qui a renvoyé aux régions la fermeture des petites gares, des petites lignes, ou sera celle qui va sanctuariser la mobilité du quotidien ? Est-ce que la ministre de l'écologie sera celle qui combattra le Lyon-Turin, un projet inutile, extrêmement coûteux ? Et celle qui investira dans les transports collectifs ? Est-ce que ça sera celle qui, aujourd'hui, de manière totalement cynique, abandonne le train Perpignan-Rungis, déprimeur, ou celle qui mettra en place un grand plan de fret ferroviaire ? Il y a tout en France pour gagner le combat de l'écologie. Est-ce que Madame Borne sera celle qui, enfin, engagera les ruptures au nom du gouvernement ? C'est la question qu'on a devant nous. Moi, je regrette déjà qu'elle ne soit plus ministre d'État. Est-ce que c'est parce que c'est une femme qu'elle n'est pas ministre d'État ?
Propos recueillis par Johanna Hochstein. Au Conseil des ministres ce matin, un projet de loi qui vise à rendre plus attractif le mandat de maire à 8 mois des municipales. Une quinzaine de mesures pour simplifier la vie des élus avec un droit à la formation effectif, la prise en charge systématique des frais d'avocat en cas de litige et pour permettre une revalorisation de l'indemnité pour les maires de petites communes. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a rendez-vous lui avec ses homologues du G7 Finance à Chantilly, près de Paris. Il s'attend à des négociations difficiles avec les États-Unis, alors que la France a décidé de taxer à partir de l'année prochaine les revenus des géants du numérique.
Oui, la possibilité de sanctions américaines contre la France existe. Ce que je vais expliquer avec beaucoup de clarté à mon homologue Steven Mnuchin, c'est que c'est l'intérêt des États-Unis de mettre en place cette taxation d'un nouveau modèle économique qui repose sur la création de valeur par des données. Et que nous ne voulons pas cibler des entreprises américaines. Nous voulons mettre en place une fiscalité adaptée à la réalité économique du 21e siècle. Au 20e siècle, la richesse, c'était quoi ? C'était des biens manufacturiers, c'était des services.
C'était du solide.
Ils sont taxés, voilà, sur le lieu de production. Aujourd'hui, tout ça n'a plus de sens. La valeur, elle se fait sans lieu de production, sans présence physique.
C'est liquide.
Et vous pouvez créer beaucoup de valeur sans avoir d'usine, sans avoir de salariés dans l'état où vous profitez des données des consommateurs. En tout cas, la France ne cédera pas sur la mise en place de sa taxation nationale. Elle a été décidée, elle sera mise en place, elle a été votée et elle sera appliquée dès 2019.
Bruno Le Maire avec Frédéric Mettezeau ce matin sur France Inter. Les agriculteurs sont vent debout. Ils agitent la menace d'une viande à bas prix bourrée d'antibiotiques ou élevée aux farines animales. En cause, le CETA, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada que les députés doivent ratifier cet après-midi. Négocié pendant 7 ans, il est pour l'essentiel déjà en vigueur depuis près de 2 ans, mais provisoirement. Bonjour Louise Baudet.
Bonjour Sarah.
Concrètement, le CETA, c'est un texte aride de plus de 2300 pages dont le contenu est resté secret pendant des années. Alors, il prévoit d'abord, assez classiquement, des dispositions pour favoriser les échanges commerciaux.
Eh oui, exporter plus et mieux, c'est la promesse des pro-CETA, formalités simplifiées, droits de douane supprimés pour 98% des produits échangés. Objectif, doper le commerce entre l'Union européenne et le Canada. Les études d'impact prévoient une hausse de 20 à 30% des échanges, mais attention, le bénéfice reste marginal, 0,02 points de PIB supplémentaire en France ces 15 prochaines années. Ça représente 10 euros par habitant.
Alors, certaines entreprises vont exporter plus, mais les éleveurs européens, eux, craignent une concurrence déloyale.
Oui, concurrence de produits soumis à des normes beaucoup moins strictes que les nôtres. Alors, pas d'inquiétude pour ce qui est du bœuf élevé aux hormones ou des OGM, cela reste interdit. En revanche, le bœuf dopé aux antibiotiques ou nourri à certaines farines animales peut être importé du Canada. Respect des normes à géométrie variable. L'impact climatique est, lui, difficile à évaluer, car paradoxalement, commercer plus n'est pas nécessairement mauvais pour la planète. Consommer local, c'est bien, mais le bilan carbone d'un animal nourri près de chez vous avec des céréales importées peut être plus lourd que celui d'un animal qui vient du bout du monde mais a été nourri localement.
Mais le CETA va-t-il empêcher les États de légiférer comme ils l'entendent sur la santé ou l'environnement ?
Alors oui, répondent les détracteurs de l'accord, car il installe des tribunaux spéciaux que les entreprises peuvent saisir contre des États si elles s'estiment lésées. Le veto climatique promis notamment par le gouvernement français ne serait en l'état pas efficace et ce volet-là du CETA est très contesté. Il n'entrera d'ailleurs en vigueur que si l'accord est partout ratifié.
Merci Louise Baudet de la rédaction internationale.
Le journal de 13h sur France Inter.
Quand la mer rejette les corps des migrants en Tunisie, la petite ville de Zarzis, au sud de Djerba, voit arriver depuis 2 semaines les cadavres sur ses plages touristiques. Au large, les pêcheurs et les bateaux de la garde maritime viennent régulièrement au secours des migrants qui tentent de gagner l'Europe depuis la Libye, toute proche. Mais le naufrage d'une embarcation le 1er juillet est le plus meurtrier qu'ait connu la région, 83 morts. Les corps ont été retrouvés jour après jour sur les plages. Notre envoyé spécial Rémi Brancato a rencontré les Tunisiens et les touristes confrontés au drame.
Sur la plage de Sango à Zarzis, les hôtels se succèdent dans l'eau, baigneurs et jet-ski, décor idyllique devenu infernal jeudi dernier.
On a vu un corps qui était retourné sur le ventre jusqu'à ce qu'il arrive au rivage.
Chantal et Michel viennent de Bordeaux chaque été depuis plus de 30 ans.
Ce sont des corps qui sont quand même en décomposition. Hein.
Le matin, il y en avait quand même 6 au bord de l'eau. Là. Et après l'après-midi, 2 qui ont été rejetés, donc 2. Affreusement mutilé. C'était horrible à voir, hein. Ça n'avait pas existé. Je parle bien entendu des passeurs.
Ce jour-là, une quarantaine de corps de migrants sont arrivés sur les plages. 82 sont morts noyés le 1er juillet. Le naufrage le plus meurtrier au large de Zarzis, Chokri, pêcheur, a vu aussi un cadavre.
Je suis resté traumatisé pendant 3 jours. En voyant des cadavres sur la plage, en voyant des gens qui vont mourir, ben, il faut le sauver.
Alors lui reste près de la côte pour travailler, mais d'autres pêcheurs secourent régulièrement au large des embarcations parties du pays voisin.
Le problème, c'est la Libye.
Pour Faouzi Kenissi, maire adjoint à Zarzis, le conflit de l'autre côté de la frontière facilite le travail des passeurs.
Tant qu'il n'y a pas d'État en Libye, ce phénomène continuera. Et nous, on est à 50 km. La communauté européenne a changé de politique. C'est pratiquement maintenant un délit de porter secours aux immigrés. Pour nous, c'est un devoir.
Et pour lui, la politique européenne de fermeté déplace les drames de l'autre côté de la Méditerranée.
Dans le dossier du crash du vol Rio-Paris, le procureur de Paris demande un procès pour Air France. Il estime que la compagnie a fait preuve de négligence et d'imprudence, qu'elle n'a pas suffisamment informé ses pilotes des problèmes rencontrés par certains équipements, les sondes Pitot, si vous vous souvenez. En revanche, il n'y a pour le parquet pas de charge suffisante à l'encontre du constructeur Airbus. La catastrophe avait fait 228 morts en 2009. Alors que les premiers incendies de l'été ont déjà ravagé quelques centaines d'hectares de pinèdes dans les Pyrénées-Orientales, lundi à Villeneuve-de-la-Raho, les pompiers ont arrêté le feu à quelques mètres des premières habitations. En cause, deux étudiants de Perpignan qui faisaient un feu de joie avec cahiers et feuilles de cours. Leur négligence laisse la commune dans l'incompréhension et la colère, Emmanuel Grabet.
Oui, à commencer par la maire de la ville, Jacqueline Irles, qui pointe le fait qu'ils sont de la région et qu'ils connaissent les dangers quand la tramontane souffle.
Comment des jeunes qui sont des adultes à 20 ans, quand même, on n'est pas inconscient, on n'a pas 12, 13 ans et on ne mesure pas les conséquences de ce qu'on fait. C'est incompréhensible que de nos jours, avec les informations qui sont faites, comment on peut avoir des gestes aussi dangereux, quoi.
Entre le brasier et la maison de Christiane, lundi, une rangée de chênes, un fossé d'herbe et une piste cyclable à peine quelques mètres.
On regarde son jardin, on regarde sa maison et on se dit mais ce sera la désolation complète peut-être. Tout va partir en fumée, quoi, en fait.
Si les deux étudiants sont reconnus coupables d'être à l'origine, même involontairement, du sinistre, ils encourent jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Mais Christiane espère surtout une sanction pédagogique.
Je pense qu'il faut leur éduquer, montrer ce qu'ils ont fait, leur faire parcourir ce champ de brûlé et puis montrer le travail des pompiers, voir ce que c'est que le feu, leur faire prendre conscience de leurs actes débiles, quoi, débiles.
Ces dernières années, deux incendies volontaires assez spectaculaires s'étaient conclus par de la prison avec sursis, 5 mois pour 2 campeurs qui avaient mis le feu aux bouillouses en voulant faire cuire du poisson, c'était en 2012, et 6 mois en 2016 pour un amateur de saucisses au barbecue à Morellas qui avait provoqué la fermeture pendant plusieurs heures de l'autoroute A9.
Les deux étudiants seront convoqués pour être jugés. C'était une vieille revendication des associations. Les règles du don du sang pour les hommes homosexuels vont être assouplies. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a annoncé ce matin que la période d'abstinence sexuelle serait réduite d'un an à 4 mois à partir de l'an prochain. L'argument du risque d'une transmission plus élevée du VIH, le virus du sida, est désormais balayé, Solène Lehen.
Pour sa décision, la ministre de la Santé s'est appuyée sur l'étude Complidon. Dans cette étude de Santé publique France, sortie en novembre dernier, avaient été interrogés des homosexuels hommes qui venaient de donner leur sang. Certains avouaient avoir menti lors de l'entretien préalable. Ils n'avaient pas respecté la règle actuelle, 1 an d'abstinence sexuelle pour pouvoir donner son sang. Et pourtant, concluait l'étude, l'établissement français du sang, qui analyse systématiquement toutes les poches, n'a pas noté dans le même temps davantage de poches contaminées par le VIH. D'où cette décision aujourd'hui de passer de 12 à 4 mois d'abstinence. François Toujas, président de l'établissement français du sang.
Il n'y a absolument pas plus de risque. Le risque à 4 mois est le même que celui à 12.
Aujourd'hui, le risque qu'il y ait une poche contaminée est de 1 poche sur 6 millions, soit 1 tous les 2 ans, et un risque très théorique, rappelle François Toujas.
Nous testons toutes les poches, ça fait donc 10 000 dons qui sont tous les jours testés. Le dernier cas de transmission qui date de 2002.
La mesure entrera en vigueur à partir du 1er février prochain et en 2022, le gouvernement envisage qu'il n'y ait plus de discrimination. Les homosexuels hommes pourront donner comme les hétérosexuels aujourd'hui au bout de 4 mois de relation avec le même partenaire.
L'auteur sicilien Andrea Camilleri est décédé aujourd'hui à l'âge de 93 ans. Il est le créateur du commissaire Montalbano. Simba, Nala, Pumba, si ces animaux de la savane ont bercé votre enfance, c'est un roi lion plus vrai que nature qui vous attend aujourd'hui au cinéma. Une adorable boule de poils qui n'a subi aucun dressage, tout en images de synthèse. Le film est signé Jon Favreau, réalisateur d'Iron Man et du Livre de la Jungle, nouvelle version déjà. Ses détracteurs diront que Disney continue le recyclage. Avec vous, Alexis de Meyer, arrêtons-nous plutôt sur la prouesse technique.
Des ordinateurs ultra puissants qui engloutissent et digèrent des centaines de milliers de photos prises au Kenya, mais aussi dans des zoos aux États-Unis. Résultat, des paysages et des animaux littéralement plus vrais que nature. Pascal Pinto est l'auteur du livre « Effets spéciaux, 2 siècles d'histoire ».
On a atteint maintenant vraiment la perfection dans le rendu de ces animaux en images de synthèse. C'est vraiment impossible de faire la différence entre un vrai et un faux lion. Ils ont donc regardé des centaines et des centaines d'heures de documentaires pour apprendre à reproduire la démarche un peu hésitante d'un lionceau. Et c'est comme ça qu'on arrive à ces séquences extraordinaires de jungle entière qui célèbre la naissance du roi lion avec les animaux qui se prosternent devant lui, ce qu'on pourrait jamais faire dans le monde réel.
Et il n'y a donc pas besoin de dompter des animaux sauvages, ce qui exclut exclut les risques de maltraitance, mais aussi d'attaque de l'équipe technique. On est en fait ici à mi-chemin entre un conte et un documentaire animalier. Pascal Pinto a pu assister au tournage à Los Angeles.
En fait, John Favreau a réalisé un peu le film comme s'il était un joueur de jeux vidéo. Il avait un casque de réalité virtuelle sur la tête. Et alors, exactement comme un joueur de jeux vidéo prendrait une mitraillette ou un autre équipement de jeu, eh bien, il appelait avec le logiciel une caméra, un trépied, des équipements d'un tournage réel, mais transposés dans le monde virtuel.
Le budget du Roi Lion, lui, est bien réel puisqu'il avoisine les 250 millions de dollars.
La chanson mythique d'Elton John, revisitée par Beyoncé et Donald Glover dans ce Roi Lion 2019. Allez, il faut remonter sur le vélo. Le Tour en repos à Albi hier prend la route de Toulouse. Bonjour Xavier Monferrand.
Bonjour Sarah.
167 km à parcourir et direction la place du Capitole.
Oui, direction la place du Capitole, et je vous remercie de m'avoir mis Can You Feel the Love Tonight dans les oreilles et dans le cerveau pour le reste de la route. 167 km effectivement, après une journée de repos qui a fait le plus grand bien au peloton. On prend les routes du Tarn et du Tarn-et-Garonne, donc puis avant d'arriver dans la Haute-Garonne pour une étape qu'on appelle de transition, hein, assez classique. C'est pas l'étape du siècle, je vais pas vous mentir. 167 km, c'est assez court pour arriver à Toulouse avec une arrivée au sprint massif, hein. Ça va être pour les costauds sur la ligne d'arrivée. Ce soir, il y aura peut-être une échappée dans la journée, hein, ça part dans une vingtaine de minutes. Il y aura peut-être une échappée qu'on dit publicitaire, hein, des équipiers qui vont partir à l'avant, montrer un peu le maillot avant que la route ne s'élève dans les Pyrénées. Là, on les verra moins. Et donc, une victoire au sprint attendue ce soir, peut-être une nouvelle victoire pour la rockstar du peloton, Peter Sagan. On verra ça aux alentours de 17h35.
Merci Xavier Monferrand qui va remonter sur la moto France Inter de Jean-André Giannichini.
La météo ? Avec les volets roulants Velux, la protection efficace en cas de forte chaleur ou d'orage, fabriquée en France. À retrouver sur velux.fr.
Encore une belle journée, Sébastien Léas.
Le soleil brille généreusement sur la majeure partie du pays cet après-midi, agrémenté de quelques nuages élevés simplement décoratifs. Entre le midi toulousain, les Alpes du Sud, les plages de la Méditerranée et la Corse, ces nuages d'altitude sont un peu plus épais et le bleu du ciel est parfois teinté de blanc. Ciel plus voilé également entre le Nord-Pas-de-Calais, l'Ouest parisien, le Nord-Finistère en passant par la Normandie. Ce sont les prémices d'une perturbation faiblement pluvieuse qui concernera le Nord-Ouest demain. Temps plus chaotique sur les Pyrénées qui sont concernées par une dégradation circulant sur l'Espagne. Des averses localement orageuses éclatent cet après-midi, en particulier sur les hauteurs des Pyrénées-Orientales et de l'Ariège. Quelques averses peuvent aussi se produire sur le relief de la Corse et le sud des Alpes, mais elles restent faibles et très localisées. Les températures de cet après-midi sont plutôt chaudes pour la saison. Il fait 25 degrés à Caen et à Biarritz, 26 degrés à Lille, 28 degrés pour Rennes, Metz et Ajaccio. On va jusqu'à 30 degrés à Paris et à Strasbourg, 31 degrés pour Poitiers, Toulouse et Lyon et 33 degrés à Marseille.